Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de commencer la semaine avec vous et Culture Média et ce beau temps. Au menu, tous les médias, toutes les formes de culture. Nos indispensables du jour, tiens, deux jeux vidéo non pas violents mais éducatifs et la série qui cartonne en ce moment chez les ados, une sorte de romance gay. Ce sera en deuxième heure car nous sommes ensemble pour 120 minutes en direct. Vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie de l'émission qui vous manque sur europe1.fr. Vous trouverez ce lundi la bande des quatre, Bruno Donnet pour ses télescopages, Lisa-Marie Marquez et son portrait préféré, Marc-Antoine Lebré et ses stories et Louise Bernard pour le journal des médias et les audiences du week-end. Notre infomédia se branche sur la chaîne d'information France 24, chaîne publique française qui émet dans le monde entier, ou presque, car la junte au pouvoir au Mali a décidé il y a quelques jours de couper la diffusion sur son territoire. Explication avec sa directrice Vanessa Burgraff. Il sera également question de l'Ukraine où France 24 a dépêché plusieurs équipes, c'est leur rôle, et dont vous apprendrez qu'un ancien militaire assure la sécurité depuis Paris. C'est son rôle, pardon. Nos invités ensuite, Perdé Chabrière, la responsable éditoriale de la boîte à questions. C'est l'une des marques fortes de Canal+, lancée dans le grand journal et qui devient autonome sur les réseaux sociaux. Enfin, un phénomène, le chanteur Dadju, deux disques de diamants en 5 ans, 2 600 000 vues sur YouTube. Il sort vendredi un nouvel album, Cullinan, et dans 2 semaines, il part pour une tournée de 7 dates en Amérique, plus le Parc des Princes le 18 juin. Et mercredi, il est la tête d'affiche du film Ima, signé Niels Tavernier, dans lequel il joue son propre rôle, rien que ça. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour, bonjour.
Louise au sommaire de votre journal des médias.
Eh bien, beaucoup, beaucoup d'audience à vous donner de ce week-end notamment. Et puis on parlera du succès du casting de la Starac, des Français qui sont satisfaits globalement de la qualité de l'information pendant la campagne présidentielle. Enfin, vous verrez que ça dépend quand même de leur orientation politique et puis de leur âge, c'est très intéressant. Dans l'actu internationale, Trump toujours banni de Twitter et puis Facebook accusé d'avoir fait pression pour s'opposer au vote d'une loi, c'était en Australie.
D'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Ils ont regardé TF1, le film Doctor Strange, dont la suite vient de sortir au cinéma. TF1 diffusait le premier volet hier soir. 3 740 000 téléspectateurs, 18,3% de part d'audience. Les films Marvel, ça marche souvent très bien. Ça permet souvent à TF1 d'être leader.
Le film, c'est incroyable. En France, 1 million d'entrées depuis mercredi.
En 4 jours, c'est ça. Ouais, j'ai vu ça. Incroyable. Deuxième, M6 avec le magazine Zone Interdite qui fait un record de saison. C'était sur la foire de Paris. 2 690 000 téléspectateurs. 13% de part d'audience. Et puis troisième, France 2 avec le film De Gaulle, 2 380 000 téléspectateurs, 11,3% de part d'audience.
Et on est lundi, donc il y a les audiences du week-end. On commence par samedi soir, Louise.
France 3 écrase la concurrence avec un de ses téléfilms policiers, comme souvent. Meurtre à Porquerolles a été suivi par 4 800 000 téléspectateurs, plus fort que le foot. C'était la finale de la Coupe de France.
Incroyable.
Et c'est 3 440 000 téléspectateurs devant France 2, soit 45 000 de plus seulement que ce TF1, la une proposait une nouvelle soirée de The Voice, suivie par 3 395 000 fidèles, c'est précis.
Un mot également de l'audience de l'investiture d'Emmanuel Macron comme président, c'était samedi matin.
Oui, c'est pour ça que je vous disais qu'on avait beaucoup d'audience à vous donner ce matin, en cérémonie boudée par les Français, beaucoup moins suivie qu'il y a 5 ans, sans doute parce qu'on ne change pas de président. C'était l'édition spéciale de France 2 qui a été la plus suivie avec 1 360 000 téléspectateurs, c'est vraiment peu, c'est 2 millions de moins qu'en 2017. Et sur TF1, 1 100 000 téléspectateurs contre 2 700 000 il y a 5 ans.
Et on termine ces audiences du week-end par vendredi soir.
Masked Singer était en tête des audiences avec 3,5 millions de téléspectateurs. Ça faisait un moment que ce n'était pas arrivé à l'émission de TF1. L'émission est donc en tête, mais en légère baisse pourtant par rapport à la semaine dernière. Deuxième, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. 2 700 000 téléspectateurs devant France 2. Et puis troisième place, Execo, c'est rare, mais quand je vous dis Execo, c'est vraiment très précis. 1 856 000 téléspectateurs chacun pour France 3 et M6. 300 cœurs sur la 3, recherche appartement ou maison sur la 6.
Europe 1, Culture Média.
Et on commence le journal des médias avec cette information. TF1 croule sous les demandes de casting pour la Star Academy qui redémarre.
10 000 inscriptions en seulement 2 jours. Voilà le chiffre communiqué par la Une. Et c'était vendredi après-midi. Donc depuis, ça a dû augmenter ce week-end. TF1 donc, qui a annoncé relancer l'émission et qui a ouvert son casting mardi soir. Si vous voulez vous aussi candidater, rendez-vous sur le site de MyTF1. Je vous vois rigoler. Vous ne voulez pas participer au casting,
non,
Philippe ?
Non, vous s'adressez à nos auditeurs et auditrices.
Sachant que c'est une académie. Ce n'est pas comme The Voice, on doit être très très bon. C'est une école. donc on peut, si on est un petit peu moins bon quand même,
et il faut habiter. J'ai une information, ils sont en train de refaire les travaux. Finalement, ils vont s'installer au château d'Amary-les-Lys et la prod va payer tous les travaux de remise en état. Les Français satisfaits du travail journalistique lors de la campagne des élections présidentielles.
57% jugent l'information délivrée bonne, 25% assez mauvaise et 11% très mauvaise. Mais au-delà de ce résultat global, il est intéressant de constater que selon l'orientation politique, les résultats changent. Près de 8 pro-Macron sur 10 jugent l'information délivrée bonne, par exemple. 7 sur 10 pour les pro-Jadot. Ça descend à 6 sur 10 pour les pro-Mélenchon. Pour les pro-Pécresse, c'est un peu moins d'un, c'est un électeur sur deux, un peu plus d'un électeur sur deux, 55% seulement. Et puis du côté de l'extrême droite, c'est là que la défiance est la plus palpable. Les électeurs d'Éric Zemmour sont une majorité à avoir trouvé la qualité de l'information mauvaise, 62%, suivi par ceux de Marine Le Pen, 53%. Autre enseignement de cette étude, la défiance des jeunes vis-à-vis des médias. Ils sont moins de la moitié, seulement 48% des 18-24 ans à avoir trouvé l'information bonne, contre 65% chez les plus de 60 ans.
Et cette même étude nous apprend de quelle manière les Français se sont informés pendant cette campagne présidentielle.
Oui, c'est en majorité grâce à la télévision, 75%, aussi par la radio, 38%, puis la presse écrite, 37%, et Internet, 33%. Je sais, ça fait plus de 100%. C'est normal, plusieurs réponses étaient possibles. Voilà pour cette étude réalisée par Via Voice pour les Assises du journalisme de Tours.
Les Assises du journalisme de Tours qui débutent aujourd'hui.
Oui, c'est ce soir à Tours, c'est la 15e édition avec des projections de films, des ateliers, des spectacles, des débats, avec notamment comme thème couvrir la guerre en Ukraine, MeToo dans les médias, l'indépendance des médias entre autres. C'est jusqu'à vendredi.
Donald Trump n'est toujours pas autorisé à revenir sur Twitter par la justice américaine.
Sa plainte a été jugée non recevable. L'ancien président des États-Unis a accusé Twitter de censure, avec comme argument pour s'opposer à la fermeture de son compte Twitter la liberté d'expression garantie par la Constitution américaine. Mais le juge a estimé qu'elle ne s'appliquait pas sur une entreprise privée et qu'en plus, le règlement de Twitter, je cite, « donne la permission à Twitter d'agir comme il le souhaite pour n'importe quel compte ou contenu, quelle que soit la raison et même sans raison ». Donald Trump, pour rappel, est banni de Twitter depuis janvier 2021 pour incitation à la violence au moment de l'assaut du Capitole par ses partisans.
International toujours, en Australie, Facebook est accusé là-bas d'avoir bloqué des pages d'informations gouvernementales pour s'opposer au vote d'une loi.
Oui, c'est une information rapportée par le Wall Street Journal. En février 2021, l'Australie s'apprête à voter une loi obligeant Facebook à rémunérer les médias dont les contenus journalistiques apparaissent sur le réseau social. On appelle ça les droits voisins. Une loi pas du tout au goût de Facebook qui décide de bloquer l'accès aux articles de presse. Mais pas seulement, le réseau social empêche aussi l'accès à des pages gouvernementales qui informent sur le Covid-19 et sur les catastrophes naturelles, alors que l'Australie est en pleine pandémie comme le reste du monde, mais aussi en pleine saison des inondations. À l'époque, la firme américaine avait parlé d'une fausse manœuvre et présenté ses excuses, mais le Wall Street Journal affirme que ces blocages étaient en fait délibérés. Le journal américain cite des documents fournis par plusieurs lanceurs d'alerte. Ils montrent que plusieurs employés de Facebook ont tenté de faire remonter et de résoudre le problème, sans réaction assez rapide. Au contraire, les dépublications ont continué.
Et le Wall Street Journal affirme que c'était une manière de faire pression auprès du gouvernement australien.
Oui, 5 jours après ces blocages, le texte de loi a d'ailleurs été amendé et assoupli en faveur de Facebook suite à un accord entre le réseau social et le gouvernement. Et miracle, juste après l'accord, les pages étaient à nouveau accessibles, selon les documents internes. En plus, cela aurait nécessité seulement une toute petite manipulation technique, changer 3 lignes de code. Facebook a réagi auprès du Wall Street Journal. La firme américaine nie ces accusations, continue de parler d'erreurs techniques. Nous avons travaillé pour résoudre ce problème. Toute allégation contraire serait catégoriquement et clairement fausse. Fin de citation.
Canal+ est en discussion pour prendre une participation dans Starz.
Starz, ce sont des chaînes de télévision et une plateforme de vidéo américaine. Les chaînes payantes ne sont disponibles qu'aux États-Unis, mais la plateforme, elle est internationale, accessible dans une 60aine de pays, dont la France. 20 millions d'abonnés au total. Elle propose des films, des séries, notamment Outlander pour les connaisseurs. Et selon le Financial Times, Vivendi serait donc en discussion avec le propriétaire Lionsgate, je vais y arriver, pour acquérir une participation minoritaire. Information confirmée par le journal Les Échos. Pour l'instant, ni le propriétaire actuel ni Vivendi n'ont souhaité commenter cette information.
Et on termine ce journal avec le décès de l'un des acteurs de la série Friends.
Oui, pardon, c'est pas très joyeux de finir comme ça. C'est un acteur d'un rôle très secondaire, mais que les adeptes de la série ont forcément en tête. Mike Argerti, qui jouait le rôle du concierge de l'immeuble, Monsieur Trigger. Il est mort à 67 ans après une très longue carrière de second rôle pour la télévision et le cinéma. Une centaine en tout.
Merci beaucoup Louise Bernard. Ces infos à retrouver dans notre newsletter média. C'est gratuit l'inscription, c'est sur europe1.fr. À demain. pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, c'est notre info média du jour. Je recevrai Vanessa Burgraf, c'est la directrice de la chaîne d'information internationale France 24. France 24, dont la retransmission a été coupée au Mali par la junte en place, qui poursuit son travail évidemment partout dans le monde et spécifiquement en Ukraine. De nombreux sujets à évoquer avec elle. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
La semaine dernière, l'organisation Reporters sans frontières publiait son classement annuel de la liberté de la presse dans le monde. Très attendu, le classement de la Russie a vu celle-ci descendre jusqu'au rang 155 sur 180 pays et intégrer la liste rouge de RSF. À peine devant dans ce classement, le Mali atteint la 111e place sur 180. Le Mali qui a fait tristement parler de lui le 27 avril dernier pour son choix d'interrompre définitivement la diffusion sur son territoire des médias français, France 24 pour la télévision et RFI pour la radio. Décision prise par la junte malienne à la suite de la publication sur France 24 et sur RFI d'infos expliquant que l'armée malienne était impliquée dans des exactions contre des civils. Cet épisode nous rappelle à quel point la guerre de l'information fait rage sur les territoires aujourd'hui en conflit et qu'il est de plus en plus difficile pour les médias français, pas seulement, mais français également, de faire leur travail, c'est-à-dire d'apporter une information indépendante et contradictoire dans des pays à risque, surtout quand cette info les concerne. Alors justement, comment informer, comment porter le regard de la France à travers le monde? Question qu'on va poser avec beaucoup d'autres à notre invité. Bonjour Vanessa Burgraf.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes la directrice de France 24. D'abord, réaction à ce classement de RSF. Est-ce qu'il correspond en gros à vos difficultés de travailler dans certains pays?
Alors d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que ce classement dit quelque chose de la démocratie dans ces pays. Aujourd'hui, la Russie est un régime autoritaire où il est extrêmement difficile pour les journalistes de travailler. Et même chose au Mali, où aujourd'hui, il est très, très difficile de travailler. Et particulièrement pour nous, journalistes à France 24, comme vous le savez, nous avons été coupés en Russie. Aujourd'hui, 28 millions de foyers ne nous reçoivent plus en Russie. Et nous avons été également coupés au Mali. Le 27 avril, définitivement, RFI et France 24 ne sont plus regardés et écoutés au Mali, sachant qu'un tiers des Maliens écoutaient et regardaient RFI et France 24.
On parlera de la Russie, évidemment, et de l'Ukraine dans une seconde partie de l'entretien. D'abord, pouvez-vous nous rappeler plus tôt? Je vais faire un petit round-up. Ça fait 13 jours que la diffusion de France 24 a été interrompue de manière définitive, a dit le pouvoir en place au Mali. En fait, en réalité, c'était coupé depuis le 17 mars dernier. Vous pouvez rappeler à nos auditeurs, auditrices, pour commencer, quelle est la situation politique au Mali qui est aujourd'hui au pouvoir?
C'est une junte qui est aujourd'hui au pouvoir, dirigée par Assimi Goïta. Une junte qui est arrivée au pouvoir après le renversement du président malien Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta. Cette junte avait promis, comme très souvent les juntes au pouvoir, des élections qui devaient avoir lieu avant le mois de février. La junte n'a pas tenu ses promesses. Elle est toujours aujourd'hui au pouvoir au Mali, avec des tensions diplomatiques, comme on le sait, très fortes avec la France, mais également avec l'ensemble de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, puisque cette junte, une fois encore, n'a pas tenu ses promesses, à savoir rendre le pouvoir aux civils via des élections.
Alors, je l'ai dit sommairement, mais la question est plus précise, pourquoi vos antennes ont-elles été interrompues sur place? Est-ce qu'il y a une raison officielle, une raison officieuse, les deux?
Alors oui, les deux. Nous avons mené des enquêtes, RFI et France 24, sur des exactions, vous le disiez tout à l'heure, qui ont été commises par les FAMA, les forces armées maliennes. Des exactions qui ont été également dénoncées par Human Rights Watch, mais également par les Nations Unies. Et ça n'a pas plu à la junte au pouvoir, qui accuse France 24 de vouloir démoraliser les FAMA, les forces armées maliennes, qui accuse France 24 de mise en cause de la déontologie. Et du coup, eh bien, on a été coupé le 17 mars. On a déposé des recours auprès de la Haute Autorité de la Communication du Mali. Et cette décision a été sans appel, puisque nous sommes coupés. La décision, en tout cas, a été maintenue. Et nous sommes définitivement coupés au Mali.
Est-ce que c'est ce reportage-là qui a, qui est réellement la cause de cette coupure du signal? Ou est-ce que le fait même de porter le nom France 24,
oui,
d'avoir le nom
alors,
du pays France,
voilà,
est-ce que vous sentez, dire les choses, que c'était dans les tuyaux?
Oui, c'était dans les tuyaux. On parlait tout à l'heure, hors antenne de TV5, ce qui n'a pas été le cas. TV5 n'a pas été coupé, France 24 a été coupé. Pourquoi? Parce que France 24, on a le mot France, et qu'il y a un amalgame qui est souvent fait dans ces régimes autoritaires entre une chaîne d'État, ce que nous ne sommes pas, et une chaîne de services public. On s'appelle France 24, nous ne sommes pas la voix de la France, mais en revanche, nous portons les valeurs de la France. Les valeurs de la démocratie, de la liberté, de la défense de la laïcité, de la défense des minorités, mais en aucun cas, nous sommes une chaîne gouvernementale. Et malheureusement, cet amalgame est fait par les régimes autoritaires en place, que ce soit en Russie où nous avons été coupés ou que ce soit au Mali.
Et c'est aussi peut-être un coup politique à destination de leur propre population. Si vous n'êtes plus retransmis officiellement au Mali, vous continuez à traiter l'actualité malienne sur vos antennes. Exemple, vendredi dernier, votre journaliste, c'est Marc Perelman, qui interrogeait sur France 24 l'ancien ministre aux Affaires étrangères et à la Défense, Tiemane Hubert Koulibaly, qui avait des mots très durs contre la junte qui n'est pas prêt de laisser le pouvoir.
Mais en fait, ils avaient un agenda caché et je pense que c'est parce que l'intention première a toujours été de se maintenir. Mais cela n'est pas possible. Et c'est pour ça que je les ai appelés à renoncer à cette aventure-là, à créer un cadre de dialogue à l'intérieur pour que les Maliens puissent se parler. Mais au lieu de ça, c'est la menace qui s'exerce, c'est une chape de plomb, c'est un régime, de mon point de vue, dictatorial qui s'installe. Nous sommes tous menacés et vous avez bien vu, les leaders politiques aujourd'hui ont le choix soit de se taire ou d'aller en prison et l'autre voie, c'est d'être absent du pays.
L'interview a été faite à Paris.
Oui.
Vous pouvez toujours continuer à travailler sur place au Mali ou est-ce que vos équipes également ont été priées de quitter le territoire ?
Alors, nos équipes ont quitté le territoire. Notre correspondante a quitté le territoire malien pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, il faut quand même le dire, c'est qu'on peut contourner cette censure. On a mis en place des moyens techniques qui sont des sites miroirs. Alors, qu'est-ce qu'un site miroir ? Un site miroir, on peut retrouver donc le site de France 24. C'est en fait un duplicata de notre propre site, mais qui est hébergé sur une autre adresse. Et nous avons fait ça en partenariat avec RFCF, avec Reporters sans frontières. Autre moyen de contourner la censure, ce sont les VPN, les réseaux virtuels privés, et qui permettent là aussi de contourner la censure en passant par une autre adresse Internet qui n'est pas évidemment l'adresse sur laquelle est hébergé notre site. Et on peut, alors voilà, je ne vais pas vous expliquer techniquement, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, vous pouvez, en allant sur le site aujourd'hui de France 24 ou sur la chaîne France 24 sur YouTube, savoir précisément comment on peut utiliser les VPN et les sites miroirs.
Quel espoir avez-vous que le signal, estant qu'il puisse revenir, de France 24 revienne ? Quelle relation avez-vous avec la junte ? En avez-vous ou est-ce que le signal est coupé dans les deux sens ?
Ah, le signal, pour l'instant, est coupé dans les deux sens. Donc voilà, mais il faut dire aussi que souvent, on est aussi des victimes collatérales de tensions diplomatiques. Donc peut-être que si demain, la junte malienne organise des élections, s'il y a un retour des civils au pouvoir, voilà, on espère évidemment que le signal de France 24 sera à ce moment-là rétabli. Mais je répète aussi, on est aussi des victimes collatérales de tensions diplomatiques.
Malheureusement, il n'y a pas que le Mali dans le périmètre de l'information internationale. Il y a également l'Ukraine, la Russie. Vanessa Burgraff, la directrice de France 24, on a encore beaucoup de questions à vous poser. Culture Média continue sur Europe.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Vanessa Burgraff, c'est la directrice de France 24. Nous parlions de l'interdiction de France 24 au Mali, interdiction décidée, cette diffusion par la junte militaire au pouvoir. France 24 est une chaîne française, publique, mais à portée internationale. L'actualité est très chargée en ce moment. Il y a la situation au Mali. Il y a également celle de l'Ukraine. On va entendre l'extrait d'un de vos derniers reportages sur le terrain. On est dans la région de Kherson, reportage réalisé par Gulliver Krag.
Au loin des bombardements, un soldat vient nous mettre en garde.
Allez, on se barre.
L'armée ukrainienne a repris cette zone en mars, mais elle sait que les forces russes n'ont pas dit leur dernier mot. Ces villageois coupent du bois pour approvisionner les abris. Les soldats renforcent leur défense, craignant une nouvelle offensive russe.
Les Russes ont besoin d'au moins une victoire avant le 9 mai, car Poutine est fan de ces dates symboliques. Mais ils n'auront pas cette victoire.
Quel est votre dispositif sur place, Vanessa Burgraff, en Ukraine ?
10 journalistes aujourd'hui sur place, à Kiev, à Mykolaïv, près du Donbass également. 10 journalistes, 4 langues, français, anglais, arabe, espagnol.
Comment s'est passée l'arrivée de vos équipes à Kiev ?
Alors c'était totalement surréaliste puisqu'on avait envoyé une équipe à Kiev mais aussi une autre équipe à Mariupol et l'équipe que nous avons envoyée à Kiev, on pensait que cette équipe allait faire du diplo. Or elle s'est levée le jeudi 24 mars à 5h du matin sous des tirs, sous des bombes et ça a été évidemment la stupéfaction puisque personne n'avait imaginé que les forces russes allaient aller jusqu'à Kiev.
C'est-à-dire que, par exemple, ils n'avaient pas les casques lourds, les gilets de protection, ou est-ce qu'ils étaient quand même partis avec tout le matériel de protection ?
Alors, ils n'étaient pas partis avec tout le matériel de protection, il faut dire les choses, parce que personne n'avait envisagé, à ce moment-là, que Kiev soit attaqué. Et ce, alors qu'on a quand même un directeur de la Sûreté à France 24, ce qui est quand même notre spécificité, notre grande force, et je voudrais encore saluer ce matin le travail de Jean-Christophe Gérard, qui suit nos équipes 24 heures sur 24, qui les géolocalise, qui les suit vraiment à la trace.
J'allais justement vous en parler. Article passionnant de François Rousseau dans Télérama le 18 mars dernier. On apprend moi j'ai découvert l'existence du directeur de la sûreté chez vous, Jean-Christophe Gérard. Voici ce qu'on pouvait lire dans le reportage de François Rousseau. Il reçoit dans son bureau isolé du tumulte de la rédaction, donc il est chez vous, avec au sol 4 gilets pare-balles et 6 casques flambant neufs et au mur 6 cartes de l'Ukraine. Cet ancien lieutenant-colonel aux 27 ans de carrière militaire ne transige pas sur la discipline. Tout passe par lui. Son téléphone n'arrête pas de sonner. Il valide chaque départ de journalistes depuis la France. Il joue les guides et les gendarmes à distance repèrent les chemins par lesquels passer un militaire au sein d'une rédaction. Est-ce que son pouvoir de décision est encore plus fort que celui des rédacteurs en chef ?
Ah oui, je dirais qu'il n'y a pas une mission sur une zone dangereuse qui part si ce n'est pas validée par Jean-Christophe Gérard. Hein. Donc c'est lui qui décide in fine, qui donne son, comme on dit, son feu vert ou son feu rouge. C'est très rare qu'il donne un feu rouge, mais tout passe par lui. Et ce qui d'ailleurs pour un patron de chaîne, je veux quand même dire, est un pilier extrêmement rassurant. Ça ne vous enlève pas de la responsabilité, mais c'est quand même de pouvoir compter sur lui et de se dire que les équipes sont suivies 24 heures sur 24. Il y a quand même un côté un peu rassurant. Vous vous sentez un peu moins seul.
J'imagine. Et vous, en tant que directrice, vous avez tout le temps votre téléphone branché ?
Le téléphone est ouvert 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, surtout durant ces périodes-là. Enfin, il est de toute façon ouvert 24 heures sur 24, puisque l'actualité ne s'arrête jamais.
J'imagine quand votre téléphone sonne à 2 heures du matin.
C'est le stress, hein. C'est le stress.
BFM TV et les 3 autres chaînes d'infos principales, je vais toutes les citer, CNews, LCI et France Info, le canal 27, diffusent ce matin le défilé de Poutine en Russie, censé être une démonstration de force. La diffusion de ce défilé a beaucoup été critiquée sur les réseaux sociaux avant même que le défilé soit diffusé. Est-ce que vous-même, le défilé est montré sur France 24 ?
Exactement, alors on se parle, nous passons cette parade militaire, le discours également de Vladimir Poutine. Pourquoi ? Parce que nous sommes une chaîne où nous écoutons la pluralité des voix. Et c'est très important parce que pour comprendre un conflit, il faut comprendre les parties en conflit et donner la voix à tout le monde. Et ça, c'est la différence, j'ai envie de dire, aussi entre une chaîne de propagande et une chaîne de service public. Une chaîne de service public doit donner la voix à toutes les parties. Et donc, on ne peut pas comprendre ce conflit en Ukraine si l'on n'écoute pas Vladimir Poutine, si on ne voit pas ce que fait Vladimir Poutine, si l'on ne décrypte pas. Donc la question ne se pose pas. Oui, évidemment, il faut montrer cette démonstration de force et il faut suivre le discours du président russe.
Toute petite question que je n'ai pas posée volontairement tout à l'heure. À quel moment la Russie a coupé le signal de France 24 sur le territoire russe ?
Au mois de mars.
Donc avant l'invasion ?
Après l'invasion.
Après l'invasion ?
Oui.
D'accord. Il y a l'actualité internationale, il y a également l'actualité nationale. Comment avez-vous couvert, c'est du passé, l'élection, la campagne présidentielle ?
Alors, on l'a couvert avec ce regard français sur l'international. C'est très, très important pour nous d'avoir plutôt, pardonnez-moi, le regard de l'international sur la France, pardonnez-moi.
Il
faut savoir comment les étrangers nous voient.
L'être personne.
Voilà, exactement. Nous avons aujourd'hui 160 correspondants, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Et donc, ce qui nous intéressait, nous, c'est de voir comment cette campagne était perçue de l'étranger, comment les candidats étaient perçus de l'étranger. Mais aussi de montrer la France aussi à l'étranger, parce que cette France, elle fascine toujours, que ce soit la culture, que ce soit la société française, le modèle français. Donc c'était l'occasion pour nous de faire découvrir ou redécouvrir ces différents points de vue à nos téléspectateurs. Et notamment, on a fait un tour de France qui était vraiment formidable, où ça a été l'occasion de faire découvrir plusieurs régions de France, avec leurs problématiques, avec des initiatives aussi citoyennes, pas montrer uniquement une France qui va mal, mais aussi une France qui va bien.
Alors après les présidentielles, il y a les législatives. Alors curiosité, lors de ces législatives, on trouve deux candidats qui ont un point commun avec vous, Vanessa Burgraff, Aymeric Caron et Charles Consigny, deux anciens chroniqueurs comme vous de l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier. Est-ce que ce matin, vous allez nous annoncer aussi que vous lancez dans la bataille?
Alors, pas du tout. Là, vraiment, c'est vraiment clair et net.
Vous êtes non. La patronne d'une chaîne internationale ou vous pourriez représenter les Français de l'étranger?
Bah écoutez, non, ça ne m'a même pas traversé l'esprit, ça ne me traversera
on
pas
l'esprit. On s'en doutait un peu. Blague à part, comment vous réagissez à ces deux candidatures?
Écoutez, chacun fait son chemin. Ce que je vois, c'est que tous ces anciens chroniqueurs, ils ont tous fait leur chemin. Ils ont été peut-être beaucoup critiqués à une certaine époque. Et chacun a emprunté des chemins différents. Certains sont Léa Salamé, devenue une journaliste qui pèse, qui a une médiatisation incroyable, excellente journaliste. D'autres ont choisi le terrain politique. Ils sont d'ailleurs assez nombreux finalement à avoir choisi le terrain politique.
Léa Salamé qui a présenté le débat présidentiel et j'y pense, si Éric Zemmour avait été qualifié au second tour, il y aurait eu deux anciens chroniqueurs de l'émission parce qu'Éric Zemmour également était dans On n'est pas couché.
Mais comme quoi on fait un peu de chemin quand on passe finalement par cette émission, en tout cas pour certains.
Le journalisme mène à tout à condition d'en sortir. Je ne suis pas d'accord avec cette phrase, mais c'est un refrain qu'on entend parfois. Merci beaucoup Vanessa Burgraff d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice de France 24 qui diffuse donc actuellement le défilé. Mais n'allez pas voir ça, vous verrez tout à l'heure les comptes rendus. On va en parler dans les news. Restez avec nous dans Culture Média. Merci d'avoir été avec nous. Nous on se retrouve dans un instant. On va parler de la boîte à questions. Séquence mythique, format court popularisé par le Grand Journal. On sera avec la responsable éditoriale de ce programme, c'est Perdé Chabrière. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Perdé Chabrière.
Bonjour.
Content de vous recevoir ici pour la première fois dans Culture Média. Vous êtes la responsable éditoriale d'une marque très forte de la télévision. C'est la boîte à questions, format qui est né dans le Grand Journal de Canal+ et qui vit maintenant sa propre vie. Alors c'est un exercice pas facile pour moi, j'avoue, parce qu'il faut trouver des questions nouvelles et intelligentes pour quelqu'un qui passe sa vie à trouver des questions nouvelles et intelligentes. Alors je vais faire comme vous. Déjà, je vais imposer une contrainte de temps. En 20 secondes, racontez le principe de la boîte à questions.
Alors le principe, c'est dans une boîte qui est aujourd'hui dans un camion de 20 mètres cubes. Donc le studio se trouve dans un camion. Un invité, un fauteuil, trois caméras, des questions dans un écran, des questions que j'écris en amont après avoir préparé mon interview. Et l'invité doit répondre à ces questions.
L'émission a démarré quand?
Alors, elle a démarré à l'époque du Grand Journal. Après, ça s'est arrêté. Et nous, on l'a repris en version digitale et antenne en octobre 2017.
Alors, c'était en 2007 dans le Grand Journal, c'est bien ça. Et vous, octobre 2017.
Voilà.
C'est encore à l'antenne en linéaire ou c'est simplement sur les réseaux?
C'est aussi à l'antenne, 19h50 tous les soirs.
Combien de boîtes à questions ont été tournées en tout et par vous?
Alors en tout, je ne saurais pas vraiment dire, mais par nous, depuis 2017, on est à 690 à peu près.
D'accord, waouh. Et en plus, il y a davantage d'invités parce qu'il y a plusieurs invités, parfois, par boîte à questions. Alors, exactement. On va entendre un extrait, c'était le 31 mars dernier, c'était avec des comédiens, trois comédiens, Alice Belaïdi, Pierre Ninet, Igor Gottesman. Question pas facile.
La dernière chose que vous avez volée?
Non, je ne peux pas le dire.
Moi aussi, je ne peux pas le dire.
Ah, c'est vrai? Vas-y, dis-le,
c'est
voir.
Non, parce que j'ai vraiment volé, en fait.
Ouais, ouais,
donc,
c'est mal.
Donc,
genre,
c'est
mal,
en fait.
Et tu voles souvent?
Non, je vole pas souvent, par contre. En vrai, de vrai, putain, carrément, je transpire tellement. J'ai
génial.
Non, j'ai volé deux fois. Une fois chez Disneyland. Je suis sortie avec un truc énorme, machin.
Et, et la deuxième fois? Oh, j'ai tellement envie de savoir. Du coup, la cul, c'est de savoir. J'ai volé un
truc. Elle veut pas y retourner.
Moi, j'ai volé un truc il y a pas longtemps. Et je me suis dit, putain, j'ai volé un truc.
Ah, une bagnole. Ok.
Ah, c'était ça. Ça y est, ça me revient. Une vieille dame.
Alors, tout ça, il dit que le sourire, on ne sait pas si Alice Belaïdi a vraiment volé une voiture et le truc énorme chez Disney, on ne sait pas. Ma question, c'est comment vous faites pour avoir ce genre de confidence de la part de vos invités? Est-ce qu'il y a une maïotique? Est-ce que vous leur parlez longuement avant ou est-ce que vous les lâchez dans l'arène qui n'est pas une arène, mais au contraire une sorte de cocon moelleux?
Alors moi, ce que je fais, c'est que je leur explique le concept, qu'ils connaissent la plupart du temps. Et du coup, je pense qu'ils arrivent à s'amuser avec les questions, à parfois répondre, faire semblant de répondre. On ne sait pas vraiment la vérité, mais ils jouent avec et ils s'amusent.
Vous les prévenez ? Par exemple, la question du vol, vous les avez prévenus ?
Non,
pas du tout.
Pas du tout.
Ils le découvrent quand ils y sont. Ouais. Il arrive combien de fois qu'ils demandent que tel ou tel passage soit coupé ? Quelles que soient les raisons. Parfois, on demande à couper parce que c'est mauvais.
Ouais.
Ou parfois parce qu'on est allé trop loin.
Alors, c'est assez rare. Ça peut arriver, c'est assez rare.
Ils font plusieurs prises ?
Non, ça se fait d'un coup.
Ah bon, en une seule fois. Il ne saura jamais, il ne dit jamais, tiens, je vais te la refaire.
Si, parfois, ils refont une question. Mais oui, ça arrive qu'ils refassent une question, mais dans l'ensemble, ça va assez vite. Ça va assez vite.
Le format dure combien de temps à l'antenne ?
Alors, à l'antenne, on est à 3,30.
Ouais.
Et au digital, on se permet d'aller un peu plus loin. Donc, ça dépend de la matière qu'on a, mais on peut être entre 3 minutes et 5 minutes.
Et en enregistrement, c'est combien de temps ? Parce que vous gardez partout, j'imagine.
Alors non, on ne garde pas tout. Moi, j'écris une trentaine de questions. On en garde souvent une dizaine. Et puis, ouais, ça peut être un tournage de 5 minutes comme ça peut être un tournage d'une demi-heure. Ça dépend vraiment de l'invité.
Qui vous avez déjà reçu ? Enfin, ma question est un peu imbécile, puisque 690 personnes, rien que si on fait la liste, on est là après-demain. des noms qui vous ont impressionné ?
Il y en a eu pas mal. J'ai un très bon souvenir de Hugh Jackman en 2018, parce qu'à l'époque, on venait de reprendre la boîte à questions. On ne savait pas si ça allait refonctionner ou pas. Et en fait, ça s'est super bien passé. D'après ce qu'il nous a dit, il a adoré l'interview, il s'est amusé, il a chanté, il a dansé. Donc ça, c'est un très bon souvenir.
J'ai vu la séquence, il est extraordinaire. Je ne l'ai pas passé ici parce que c'est très visuel et en plus, c'est en anglais, donc c'est sous-titré. Donc ça ne marche pas du tout pour la radio. Après les noms qui vous ont impressionné, est-ce qu'il y a des noms, des gens qui vous ont dit non, qui vous ont impressionné ? Qui a refusé de venir faire la boîte à questions ?
Ben, on a des acteurs assez mythiques qui ne se prêtent peut-être pas au jeu parce qu'ils ne sont peut-être pas dans cette dynamique-là. Mais par exemple, des gens que j'aimerais avoir, ça pourrait être un Gérard Depardieu ou une Catherine Deneuve qu'on n'a pas encore reçus.
Le studio fait 20 mètres carrés ou 20 mètres cubes ?
20 mètres cubes.
Parce que vous avez dit 20 mètres cubes, dans les journaux, il y a écrit 20 mètres carrés. Donc il faudrait le dire que c'est 20 mètres cubes.
C'est un camion de 20 mètres
donc
cubes.
Donc c'est tout petit.
Ouais, on n'est pas sur 20 mètres carrés.
120 ampoules, c'est bien ça ?
Oui.
Trois caméras. Les choses les plus folles qui soient arrivées dans 20 mètres cubes ?
Des danses, des ampoules qu'on enlève, qu'on remet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, j'ai un très bon souvenir avec Jean-Paul Gaultier, où on lui passe un extrait d'une de ses anciennes boîtes à questions à l'époque du Grand Journal.
Ouais.
Et on lui dit, à l'époque du Grand Journal, t'avais fait un striptease. Est-ce qu'aujourd'hui, tu nous referais un striptease dans la boîte à questions actuelle ? Et Jean-Paul Gaultier nous fait le striptease.
C'est pas vrai.
Ouais. Et finit en caleçon dans la boîte à questions.
Ah bon, je pensais qu'il était allé jusqu'au bout et que vous avez coupé par pudeur parce que le CSA veille. Autre exemple, voilà ce qu'on peut faire. Ils sont 7 dans 20 mètres cubes. C'est section d'assaut. Ouais. Vous leur demandez de chanter l'un de leurs tubes.
Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je me dis c'est pas.
Mon
papa, maman, les gars,
désolé.
Je ressens comme une envie de
m'isoler.
Et j'ai dû côtoyer le pavé. Hey, rendez-vous sur la route.
Rendez-vous sur la route, ils sont 7 là-dedans. On continue de parler de la boîte à questions avec Perdée Chabrière, c'est la directrice éditoriale. On n'a pas encore parlé du son, on n'a pas encore parlé de plein de choses et des audiences. Culture Média continue.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Perdée Chabrière, c'est la directrice éditoriale de cette marque mythique de Canal+, la boîte à questions qui avait démarré dans le Grand Journal de Denisot et qui vit maintenant de sa propre vie, tout en étant sur le digital, mais tout en étant également en linéaire sur Canal+. Redites-moi, c'est à quelle heure sur Canal tous les jours ?
19h50.
Le nombre record de vues, vous le connaissez, c'est Inès Reg. Vous étiez déjà là ?
Oui, j'étais là.
Oui, ça vous a plu.
Oui.
11 millions de vues. Alors, je dis, pour qui ne la connaîtrait pas, Inès Reg, c'est celle qui avait demandé à son mari Kevin de mettre des paillettes dans sa vie. On la retrouve chez vous dans la boîte à questions.
Inès, la boîte à questions a une question pour Dr Love. Comment on drague sur les réseaux sociaux ? Ah, vous déchirez la boîte à questions, vous regardez Dr Love. Ok, au début, faut faire une photo. Tu te fais en bombe de dingue, mais tu fais genre, c'est pas fait exprès. Et tu fais un peu genre, tu vois, la lèvre, elle est bombée, mais tu sais pas trop quand même. Et dès qu'il y a le gars que tu kiffes qui vient liker, tu lui envoies une petite blague genre ah ouais, enfin c'était un truc vite fait comme ça, j'ai pas fait tu m'aimes. La dernière personne qui t'a pas follow back quand tu l'as follow, ça doit être un truc genre Rihanna. Et genre j'ai été étonnée, genre ouais, follow pas, ah genre la meuf elle connaît pas les paillettes, étonnant.
11 millions de vues, c'est le record en moyenne. Vos chiffres, c'est à quel étiage?
Ça peut être 100 000, comme ça peut être 1 million, ça peut dépasser le million. On est entre 100 000 et 500 000, et quand ça explose, on dépasse le million.
Et ça dépend de quoi quand ça explose? C'est le nom ou c'est la personne qui raconte un truc énorme? Il y a une archive avec Amanda Lear, on n'a pas pu la retrouver. Je ne vais pas la citer ici parce que ce n'est pas grand public, mais vous savez vous aussi. Si vous voulez la dire, allez-y, mais moi je ne le dirai pas.
Je pense que c'est quand elle parle de ses danseurs.
Non, c'était une autre, mais est-ce que la taille ça compte? Vous vous souvenez de la réponse?
Oui, non. Je l'ai pas en tête.
Tant mieux. Est-ce que c'est la personne qui fait l'audience ou est-ce que c'est une séquence spécifique qui fait que ça marche et que ça fait un buzz?
Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Quand on reçoit des noms qui sont dans l'actu assez jeunes, etc., on sait que ça va marcher. Par exemple, Inès Reg, c'était vraiment... On l'a reçu au moment des paillettes, etc. Donc, on se pensait pas que ça exploserait autant, mais on savait que ça marcherait. Et parfois, on a des très bonnes surprises, effectivement, selon une anecdote qui va circuler sur Internet. Et du coup, ben, on a des bons chiffres.
Combien de followers sur les réseaux sociaux? Qui suit la boîte à questions?
Alors, qui suit la boîte à questions? Ça varie. Ça peut être, notre audience, elle est entre 15 et 35 ans, à peu près. Maintenant, on a beaucoup de gens qu'on reçoit qui nous suivent aussi. Voilà, sur Instagram, je crois qu'on a 128 000. Facebook, on a 400 000. Twitter, c'est un peu plus faible, on est dans les 12 000. Et voilà.
Alors, j'ai découvert en préparant cet entretien que le montage n'est pas le même suivant le support de diffusion. C'est juste une question de durée ou est-ce qu'il y a des choses qu'on peut passer sur les réseaux sociaux mais qu'on ne peut pas diffuser à la télé normale, linéaire, sur Canal+, et inversement?
Alors, il y a une question de timing aussi, où nous, des fois, sur le digital, comme je disais tout à l'heure, on a envie d'aller plus loin parce qu'on a envie de mettre plus de choses, parce qu'on trouve que c'est sympa et on a envie de garder.
Mais de manière éditoriale.
Et de manière éditoriale, il y a des choses qu'on ne garde pas à l'antenne parce qu'elles sont plus digitales qu'antenne, je dirais.
Vous êtes combien dans l'équipe? C'est vous la responsable? C'est une grosse équipe. Je vais citer TV Mag, qui parlait de vos audiences et qui écrivait, c'était l'an passé, des chiffres stratosphériques en comparaison des moyens techniques employés à la réalisation. J'ai dit, c'est un camion, trois caméras. Ouais. Vous, une équipe de combien de personnes?
On est trois et un stagiaire.
J'ai vu au générique le nom de Bertrand Delaire. Il est toujours avec vous?
Oui, toujours.
Je vais le citer pour qu'il ne connaît pas. Un auteur qui a travaillé avec notamment Antoine Decaune sur la cérémonie des Césars et qui a surtout créé un autre format emblématique, le service après-vente des émissions. Quel est son rôle?
Alors, il valide les boîtes à questions. Je lui envoie tous les jours, il les regarde et puis il est là pour nous épauler en cas de problème, de questions. Et il valide toutes les boîtes à questions.
C'est à qui? C'est à Canal+?
Oui, ou... NPA.
D'accord, c'est la société Canal+, ça avait été créé par Alexandre Drubini.
Tout à fait.
Et c'est Canal+ qui a les droits désormais. Et puis il faut que je parle du son, il y a le buzzer avec ce son qui excite tous vos invités. No ! Il vient d'où?
Alors c'est une chanson de Prince qui s'appelle Alphabet Street. Ouais. Et en fait il dit no, ouais. Et en fait nous on a voulu le transformer en ow.
Alors je sais pas si c'est sensible, vous savez quoi? On a fait un essai, Jérémy Hébert et ses équipes ont trouvé les deux sons. Ça c'est Prince. No ! Ça c'est la boîte à questions. No ! Et on retrouve aussi le sample de Prince dans la chanson elle-même, Alphabet Street. On écoute. Alors en vrai, il paraît que les invités n'entendent pas le cri.
Alors il est très faible, on l'entend pas parce qu'on le met en post-prod pour que eux fassent vraiment leur ow à eux et que nous on ajoute le nôtre par-dessus.
J'y pense, il y a des fois une séquence un peu bêtisier dans la boîte à questions, mais est-ce que vous avez dans l'idée de faire un jour un bêtisier des bêtisiers, les choses vraiment trop atroces que vous n'avez jamais osé diffuser?
Je pense pas.
Vous le verrez jamais?
C'est pas prévu, mais pourquoi pas?
Quel dommage, c'est vous qui faites le montage?
Avec un monteur, oui.
D'accord, non, mais c'est vous qui décidez de ce qui est à l'antenne, ce qui n'est pas à l'antenne.
Oui.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Perdé Chabrière.
Merci
la boîte à questions, c'est ce soir et c'est partout sur les réseaux sociaux. Pardon, je vais arriver à le dire. C'est ce soir sur Canal+,
19h50.
J'ai toujours peur de dire une bêtise quand je donne les horaires. Merci d'avoir
merci
été avec
vous,
nous.
Merci beaucoup.
Culture Média continue après les infos de 10h. Les télescopages de Bruno Donnet. Il va nous expliquer pourquoi Jean-Luc Mélenchon a shippé les stratégies de communication des startups de la Silicon Valley. Et puis notre invité, c'est un phénomène, chanteur, désormais acteur d'Adjou. Il est dans le film Ima, dans lequel il joue son propre rôle, Les Indispensables. Héloïse Goua va nous parler d'une série feel good sur des amours adolescentes qui cartonnent dans le monde entier. Et Caroline Speller, deux jeux vidéo familiaux cultes qui refont surface. L'humoriste, imitateur Marc-Antoine Lebray, il est de retour en fin d'émission. A tout de suite sur Europe 1.